Je voudrais commencer cette matinée et pour vraiment petit à petit rentrer dans le sujet qui a été proposé pour cette retraite, de rappeler cette phrase de Lippo qui nous dit: Nous nous sommes assis ensemble, la montagne et moi, jusqu'à ce que seule la montagne demeure. Nous sommes assis ensemble, la montagne et moi, jusqu'à ce que seule la montagne demeure. Et la proposition pendant ces 3 jours, c'est d'aller explorer par différents angles d'approche la profondeur de cette réflexion, comment elle nous parle, comment nous la vivons. Cette réflexion probablement nous invite à venir déposer quelque chose. Peut-être venir se déposer ici, maintenant, dans cet espace. Et aller goûter à ce que l'on appelle la présence. Et pour aller goûter à ce que la présence implique pour nous, il est aussi intéressant d'aller à la rencontre de tout ce que n'est pas la présence. Et pour pouvoir laisser cet espace prendre le dessus, le Bouddha nous a offert une multitude de propositions, et notamment de démarrer toujours en posant un cadre. Et un des aspects de ce cadre, c'est de nous avoir offert des préceptes. Comme il a été dit hier soir, un précepte n'est pas du tout une obligation ou une interdiction, mais une invitation à comprendre que les suggestions qui nous sont offertes sont là pour nous aider, sont là comme des fondations, des piliers sur lesquels on va pouvoir se reposer, remettre notre confiance, et en même temps d'en faire une opportunité de découvrir comment elle s'applique à nous-mêmes, dans la relation que l'on entretient avec soi, à l'intérieur de soi, et la relation que l'on entretient avec le monde extérieur. Alors, je ne sais pas si vous avez l'habitude de les chanter, je ne les ai pas ici en pali, mais ce que je vous propose, classiquement pour nous laïcs, et il y en a cinq, vous pouvez faire le vœu d'essayer de les cultiver les cinq pendant ces 3 jours, vous pourrez peut-être en privilégier un ou une plutôt qu'une autre, plutôt qu'un autre. À vous de vraiment d'être en résonance avec ce qui vous parle, ce qui semble juste pour vous, ici, maintenant, à chaque instant, ce qui semble être en résonance avec votre cœur, tout simplement. Toutes ces méthodes que le Bouddha nous a offertes sont des pointeurs, c'est peut-être un mot anglophone, mais qui nous permettent d'amener une direction. Mais la personne qui sait avant toute chose ce qui convient pour lui ou pour elle, c'est le cœur. L'invitation des préceptes, c'est à venir se réfréner de quelque chose. se réfréner et que ce frein ait du sens pour nous. Par exemple, la première, c'est de ne pas tuer, ou dit autrement, de veiller dans la mesure du possible à ne pas ôter la vie. Alors, on n'a pas encore les moustiques, donc on ne peut pas parler de la difficulté que les moustiques pourraient nous poser avec ce précepte-là. Mais peut-être lorsque l'on marche dehors, hein, avec la pluie, les vers de terre qui sont dehors, peut-être des escargots, je ne sais pas, quelques insectes, un devoir. Est-ce que c'est quelque chose que l'on a envie de cultiver? Et de voir aussi que pourquoi on nous propose cela? Qu'est-ce qui se passe quand je tue une araignée? Qu'est-ce qui se passe quand j'écrase un escargot? Pour ma part, j'étais dans le Bas-Jura pendant plusieurs mois et malheureusement, un matin très récemment, j'étais en voiture et j'ai percuté un chevreuil. De voir qu'est-ce qui se passe quand je prends la vie, intentionnellement ou pas intentionnellement. Qu'est-ce que ça me fait vivre? Tout, dans le message que le Bouddha nous transmet, tout est une invitation, tout est une opportunité d'être au contact de ce qui se passe en nous. Quand j'ôte la vie, quand je choisis de ne pas l'ôter, et que je fais ce choix consciemment, à quoi cela donne naissance à l'intérieur de moi-même? De la paix, de l'agitation, sont des choses toutes banales, mais d'amener de la conscience là-dedans, de voir en fait comment ces simples préceptes peuvent nous prémunir d'agitation, nous prémunir de rumination. J'en parlais hier avec, je crois que c'était le précepte de ne pas mentir que j'ai nommé. Qu'est-ce qui se passe quand je raconte une histoire? Qu'est-ce qui se passe quand je suis sincère et honnête? Tant vers l'autre qu'envers moi-même, qu'est-ce que ça provoque? De l'agitation, du calme. Donc on le voit vraiment, ces préceptes, ce ne sont vraiment pas des choses qui font autorité, qui sont là pour nous punir, mais au contraire, nous donner l'occasion de rencontrer la vie qui s'exprime en nous. Parfois d'une manière qui nous sied, parfois d'une manière qui ne nous sied pas du tout. Un autre précepte, c'est de ne pas voler. On pourrait l'appliquer, le dire autrement. Dans la vie monastique, vous savez, il est interdit de prendre ce qui n'est pas donné, ce qui n'est pas offert. Est-ce que j'aurais envie, ici, de voir comment ça pourrait s'appliquer à notre petite vie en communauté ? De ne pas prendre peut-être ce qui n'est pas offert, ou de voir l'envie de prendre quelque chose. Encore une fois, vraiment, j'insiste sur ce terme opportunité. L'opportunité d'être en contact avec la vie. Un autre précepte, c'est de se réfréner de toute inconduite. Généralement, c'est toute inconduite sexuelle, mais je crois qu'on peut véritablement l'ouvrir. On vit en communauté, la maison est pleine. J'en ai déjà parlé hier soir. La manière dont je me meus, la manière dont je bouge, la manière dont je vais prendre une tasse, la manière dont je m'installe, la manière dont je bouge une chaise, la manière dont je marche dans les couloirs. Quelle incidence cela a à l'intérieur de moi-même, mais aussi lorsque je marche vite, que je claque une porte, peut-être que je vais chuchoter avec quelqu'un parce que j'ai un besoin pressant. Est-ce que je peux amener une qualité d'attention, une certaine forme de vigilance là-dessus. Quelles conséquences ça engendre? Est-ce que dans ma manière d'être, de me mouvoir ici, est-ce que il y a... Est-ce que je prends soin de moi? Est-ce que je prends soin des autres? Est-ce que je prends soin, encore une fois, de la vie? Et tout ça, c'est vraiment les préceptes, c'est, sont vraiment des choses à appréhender sans jugement. Parce que bien sûr qu'à un moment donné ou à un autre, ça va être impossible de se réfréner, je crois qu'il faut quand même être honnête, c'est pas toujours évident. Et de vraiment faire attention à ce moment-là, de ne pas partir dans l'autocritique. Hein, nous sommes ici véritablement dans un endroit qui vraiment offre des conditions qui nous permettent d'aller voir tout ça. On est à l'abri, nous sommes entre gens attentionnés, bienveillants, nous sommes tous là pour mieux comprendre, probablement à la recherche de la même chose. Donc les conditions sont vraiment optimales pour ça. Le dernier précepte, c'est de se réfréner d'ingurgiter des intoxicants, des produits qui pourraient altérer la clarté de l'esprit. Alors là, je ne sais pas si on met la barre, où on met la barre, moi je bois du café. Donc voilà, encore une fois, d'aborder ça avec légèreté, on n'est pas là pour se taper sur la tête. Tout est vraiment opportunité de rencontre, opportunité de simplement de mieux se connaître, de mieux comprendre comment on fonctionne, comment ça s'agite en nous. Vraiment amener de la légèreté dans tout ça. C'est ce que je disais hier soir, on n'est pas là pour atteindre un but. Et c'est de ça dont il va être question tout pendant ces 3 jours. Quand en partant à la découverte, qu'est-ce que c'est que la présence ? Quelle différence il y a lorsque il y a juste cette présence et qu'il y a ce petit moi-je qui commence à se dissoudre et qui s'efface. Et au contraire, quand ce moi-je mène la danse, qu'il est en train de prendre le contrôle en cet instant même, dans l'expérience que je suis en train de vivre, parce que peut-être, oh, il aime bien ce qui se passe ou il n'aime pas ce qui se passe, de vraiment voir l'incidence que ça a. Et ça, je vais y revenir ce soir, on va y revenir demain, etc. De vraiment voir comment on peut naviguer avec plus de clarté, plus d'habileté entre être, simplement. Et lorsque, à chaque fois que l'on est au monde, à travers le filtre de nos croyances, de nos opinions, et vraiment d'aller toucher du doigt à chaque instant, de voir comment tout ça s'est construit et ça passe par la pensée. Parfois très grossière, parfois extrêmement visible, et puis parfois sous forme de croyances beaucoup plus subtiles, qui peuvent prendre du temps avant qu'elles émergent et qu'elles viennent à la conscience. Et tout l'intérêt, c'est pas d'être à 100% dans la présence tout le temps, parce que je pense que tout le monde sait que c'est très difficile. Mais au contraire, de voir comment on navigue de l'un à l'autre, encore une fois, pour mieux comprendre ce qui se passe, pour mieux comprendre quelles sont les forces qui sont à l'œuvre ici, maintenant, à chaque instant. Et la chose merveilleuse, c'est qu'on est à peu près 30 pour voyager dans ces deux mondes ensemble. J'imagine que l'on a tous une idée de ce qu'est la présence. Parfois on en a une idée, parfois il y a juste cette présence. Le Bouddha a nommé 5 empêchements à la présence. J'imagine que vous les connaissez tous. L'intérêt pour nous, c'est de reconnaître quand ils sont là, de reconnaître quand ils sont absents, ces empêchements, ces obstacles. Pour celles et ceux qui ne sont pas familiers, je vais les nommer. Et on va s'intéresser pendant ces 3 jours particulièrement à un. Le premier obstacle à la présence, c'est le désir, c'est l'envie, sous toutes ses formes. Et c'est vraiment celui-là qu'on va aller voir, on va aller regarder, observer, sentir surtout d'un peu plus près. Il y a l'opposé, il y a l'aversion, le fait d'être dans le rejet. Il y a, ça je pense qu'on connaît bien, l'agitation, qui peut prendre la forme d'agitation physique, qui peut prendre la forme d'agitation morale, mentale, affective. Il y a la torpeur. Alors la torpeur, c'est cette espèce d'état où l'esprit manque de clarté. On est généralement dans le brouillard. Ça peut venir de la fatigue, ça peut venir d'un manque, simplement d'un manque de curiosité, d'un manque d'intérêt à ce qui est en train de se passer ici, maintenant. Si vous avez vu notre esprit, hein, il préfère généralement créer quelque chose qui n'est pas là plutôt que d'être ici. Et ça, on va s'intéresser au pourquoi du comment. Pourquoi on a cette fâcheuse habitude, hein, de toujours créer quelque chose, soit de partir dans le passé, hein, à travers le souvenir, ou de projeter, d'imaginer un futur proche ou lointain, comme si ce qui était là, ici, maintenant, n'était pas suffisant. Je crois que j'en ai nommé 4, il me semble, et le dernier, c'est le doute. Et ça aussi, c'est quelque chose qui est à l'œuvre extrêmement fortement. Quand on est assis en méditation, vous avez remarqué le nombre de fois où on est en train d'essayer d'évaluer la manière dont on pratique. Ah, ça c'est bien. Non, mais là, non, j'y arrive pas. Non, là, ça c'est pas bien. Non, mais une bonne méditation, ça devrait être comme ça. On est toujours en... Il y a toujours, très souvent, cette tendance, ce besoin à essayer de se rassurer sur... Est-ce que je fais les choses correctement? Qu'est-ce qui doute là? Pourquoi il y a ce doute? Donc tous ces états d'esprit, ces états mentaux, là aussi, ce ne sont pas des choses qui sont à éradiquer de notre expérience, mais au contraire, hein, d'aller apprendre, d'aller au contact, d'amener de la curiosité. De voir, d'apprendre à les reconnaître quand ils sont là. Parce qu'à partir du moment où on commence à reconnaître un état, il y a quelque chose en nous qui n'est pas complètement absorbé dedans. Et ça, c'est vraiment important de le reconnaître. Donc on n'est pas là pour éradiquer ces états mentaux, on est là pour apprendre à voir quand ils sont à l'œuvre. Et en termes de ressenti, qu'est-ce qui est vécu ? Et je voudrais revenir sur un aspect de ce premier empêchement qu'on nomme le désir, qu'on nomme l'envie, qui pour moi me semble fondamental parce que même quand on est un méditant expérimenté, c'est très très difficile de ne pas chercher à produire un effet, de ne pas chercher à obtenir quelque chose de cet instant, de ma méditation. J'ai acquis une certaine forme d'habileté, je sais poser mon attention sur le souffle, je sais poser mon attention sur les sensations corporelles, je sais plus ou moins poser mon attention sur l'écoute. Mais est-ce que d'une manière, peut-être un peu dans le fond, je n'utilise pas cet outil pour obtenir quelque chose de cet instant? Et si je pointe ça du doigt, c'est parce que souvent, et surtout au démarrage d'une retraite, on va chercher à être présent. Ce qui est une intention noble, tout à fait légitime. Mais il y a un petit danger là derrière. En cherchant à être conscient, consciente, en cherchant à être présente, est-ce que d'une certaine manière, derrière cette intention, il n'y a pas la croyance que quelque chose manque ici, maintenant? Quand je cherche à être conscient, à être consciente, est-ce que finalement je ne crois pas que quelque chose n'est pas là, qui devrait être là, et que je devrais soit créer, soit produire, soit obtenir, soit générer? Et ça, c'est super intéressant. Parce qu'en fait, rarement, on se rend compte que cet espace, quand je vais parler de présent, je vais plutôt parler d'espace. Pour moi, c'est un terme avec lequel je suis plus confortable. Si j'imagine, si je crois que la présence n'est pas là, je cherche, je la cherche. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir, c'est que c'est comme si j'essayais de créer, je cherche quelque chose qui, en fait, est toujours disponible. Est toujours là. Mais ça, dans ma manière d'appréhender la pratique, à quel point j'en suis conscient, consciente. Et ce qui est intéressant pour nous, ce simple questionnement, c'est que ça met en lumière la différence qu'il y a lorsqu'il y a simplement cet espace qui permet d'être, et lorsqu'il y a cette activité mentale, cette croyance que je suis quelqu'un ici, maintenant, qui est séparé du reste, et parce qu'ils se sont séparés de cet espace de présence, a besoin de manager le moment et d'essayer de créer des conditions qui vont m'amener à croire que ça y est, si je fais ça, si je fais ça, je vais être présent. Et de voir la subtilité de ça, comment tout de suite, ça nous décale dans le temps. Et ça, peut-être j'en parlerai demain après-midi ou cet après-midi, vraiment de voir comment on s'engage avec le temps. Et peut-être de voir comment ce temps linéaire, passé, présent, futur, est une immense illusion dans laquelle on est perdu. Donc vraiment de voir. Au fond, je fais un effort ici. Je dirais, c'est faire un effort, peut-être même pas d'attention, faire un effort, être vigilant, mais être présent, est-ce que fondamentalement, ça me demande quelque effort que ce soit? Est-ce qu'au fond, comme je le disais tout à l'heure, cet espace, il n'est pas toujours disponible, il n'est pas toujours là, hein, que j'en sois conscient, consciente ou non. Cette conscience, elle passe par 5 voire 6 manières de s'exprimer. À travers nos 5 sens, dans la psychologie bouddhiste, 6. Le 6e sens dans la psychologie bouddhiste, c'est l'activité mentale. C'est de percevoir à travers la pensée, et considérer comme un sens. Et vraiment de voir, moi je vous invite, là tout de suite maintenant, est-ce que ça demande un effort? Et là, vraiment d'écouter les mots. Est-ce que ça demande un effort ou quelque chose d'intentionnel de votre part d'entendre le son de ma voix? Pas d'écouter ce que je dis. Pas d'être attentif au contenu. Hein? Pas d'être vigilant à ce que je raconte. Mais simplement d'être ce contact sensoriel, primaire, simple, basique, d'entendre. Est-ce que cette faculté-là, elle n'est pas naturelle et elle ne dépend pas de moi? Est-ce qu'elle est simplement là, cette conscience auditive, parce que je suis en vie, parce que je suis un être humain? Ça ne demande pas d'effort. Et moi, je dépense tellement d'énergie à essayer d'être présent, présente au son. Encore une fois, être vigilant au contenu, c'est autre chose. Mais vous avez vu, même, on va utiliser le sens de la vue. Vous pouvez ouvrir les yeux. Quand vous ouvrez les yeux, le moment où vous ouvrez les yeux, est-ce que ça demande un effort quelconque d'être au contact visuel de ce qu'il y a en face de vous? Est-ce que ça vous demande, bon alors qu'est-ce que je suis en train de voir, etc. Oui, quand je fais ça, je ne suis plus dans le contact visuel, je suis dans ma pensée. Et de voir que cette conscience visuelle, vraiment, même pas de voir, de ressentir, que c'est quelque chose qui ne me demande pas d'intervenir. Je vois. C'est même pas. Et le jeu, on peut l'enlever. Les yeux s'ouvrent, il y a cette fonction, il y a cette conscience visuelle qui opère. Et cette conscience naturelle, elle se situe à la porte de tous les sens. Que ce soit la vie, la vue, que ce soit l'audition, que ce soit l'odorat, que ce soit le goût, que ce soit le toucher. Et puis aussi la pensée, ça peut-être on verra ça demain un peu plus en détail. Ou lundi. Ce qu'on essaye de pointer du doigt là, c'est la différence fondamentale qu'il y a entre revenir à la simplicité d'être là à travers l'expérience sensorielle plutôt que d'être dans la construction de quelque chose en fonction de ce que j'entends, de ce que je vois, de ce que je sens, de ce que je touche, de ce que je goûte. En résumé, tout ce que je vais rajouter par habitude hein, sur cette basique et simple expérience d'être, de faire l'expérience de la vie à travers mes 5 sens. Et moi, je voudrais vraiment vous inviter à jouer, si ça vous intéresse, bien entendu, hein, d'aller jouer avec ça tout au long de la journée. De vraiment de voir où on se situe. On va dehors, un rayon de soleil. Est-ce qu'il y a seulement le contact visuel avec le rayon de soleil, hein, ou peut-être sensoriellement la sensation du soleil sur la peau, ou est-ce que tout de suite, ah, ça fait du bien, enfin une éclaircie, ah, ça fait du bien cette chaleur, vous voyez, et vraiment d'apprendre à, c'est pas un problème si c'est ça qui est en train de se produire, hein, c'est pas du tout un problème, mais ça mérite le cadeau de notre vigilance, de voir ce qui se produit. Quand est-ce qu'on est simplement avec, dans la rencontre, dans le contact vraiment primaire, primal, d'un objet, interne ou externe, avec un sens, et quand tout de suite ça bascule dans l'historique, dans le narratif, hein, dans qu'est-ce qu'on va rajouter à cette expérience? Et évidemment, j'en pourrais faire un concours de celui qui le fait le plus par jour. Et vraiment d'apprendre, voilà, d'apprendre à reconnaître, hein, quand c'est un état qui prime plutôt qu'un autre. Et d'observer l'incidence que ça a sur la manière d'être au monde en cet instant, quand c'est la pensée, le moi-je qui prend le lead, et quand il y a simplement cette expérience basique. Leur tour. Peut-être avant de démarrer une méditation guidée, juste un quelque chose à aborder avec prudence pour celles et ceux qui n'ont peut-être sont peut-être pas familiers ou aussi familier avec cet espace de présence, Il y a la grande différence entre penser et être et être, c'est que cet espace-là, il ne peut être rencontré et se révéler qu'à la condition qu'il y ait une ouverture à la sensation. C'est-à-dire que l'on va expérimenter cet instant à travers le ressenti et non plus notre tête, notre capacité extraordinaire, soit hein, de penser, de réfléchir, de doser, d'analyser, qui est vraiment une fonction merveilleuse, mais qui peut aussi être contre-productive dans ce qu'on est en train de faire ici, dans ce contexte. Donc vraiment d'apprendre à voir quand est-ce qu'il y a cette bascule dans le ressenti et quand on est vraiment dans cette construction mentale. Et de voir que plus on va s'intéresser à cet espace de ressenti, il va se produire beaucoup de choses. Et une des choses sur lesquelles justement je voudrais vous inviter à faire attention, c'est que cet espace-là, si on n'est pas familier, peut engendrer de la peur, de la crainte, pour plein de raisons. La première, c'est que dans cet espace-là, c'est vide. Et nous, on n'a pas l'habitude. Regardez comment on fonctionne, ce que je disais, on a toujours besoin de remplir. Envie de ceci, envie de cela, pas envie de ceci, pas envie de cela. Donc c'est pas un mal, Mais c'est de voir qu'il y a la force d'une habitude et que ce territoire qui nous est relativement inconnu, parce qu'il va faire appel finalement à notre... On va aller se connecter avec le mystère de l'existence, avec tout ce qu'on ne comprend pas de l'existence. Et pas savoir, c'est pas un territoire qui nous est familier. Donc s'il y a de la crainte, de voir comment vous pouvez naviguer. Est-ce que vous sentez que vous avez les ressources en cet instant même pour rester là, observer la peur, ou s'il est peut-être nécessaire, je ne sais pas, de revenir sur, de revenir sur la sensation. Ce qui est important, c'est de se sentir en sécurité, hein, dans cette approche, dans ce processus. Et si vous sentez que ça commence à être un peu comme des sables mouvants, vous commencez à sentir l'angoisse ou l'inquiétude qui monte, revenez simplement, très simplement, à la réalité. Si vous êtes assis dans cette pièce, que waouh, ok, tout va bien. Je suis au chaud, j'ai le sol sous mes pieds, il fait bon, je suis super bien entourée. De vraiment revenir à la réalité, hein, concrète, matérielle, qui va venir réancrer et ramener l'équilibre. Vraiment, ici, on apprend, c'est vraiment tout un art. Et comment, tout à chacun, parce qu'on est tous différents, qu'est-ce qui m'aide, moi, à garder le cap? Qu'est-ce qui me permet de cheminer en équilibre? On pourrait voir cet espace, cette présence comme l'océan. Et puis souvent... En surface, il y a les vagues. Comment je peux apprendre à reconnaître que les vagues ne sont qu'un aspect de l'océan et qu'elles ne sont pas un problème? Je vais vous inviter, si ce n'est pas déjà le cas, à prendre une posture pour les 25 minutes qui nous restent. Et de voir comment on peut apprendre à reconnaître que ce que l'on désespérément on cherche ne nous a jamais quittés, que c'est déjà là. Et comme c'est déjà là, on peut se détendre. Il n'y a plus besoin de chercher quoi que ce soit, il n'y a pas besoin de chercher à être présent, il n'y a pas besoin de chercher à être concentré, il n'y a pas besoin de chercher à être calme. Il n'y a pas besoin d'essayer, d'espérer que le mental va se calmer. Si on a des conditions de vie difficiles, c'est normal que le mental s'agite. C'est normal qu'il y ait de l'agitation dans le corps. Et je nous invite vraiment maintenant à descendre dans le territoire du ressenti. Comment la vie, là, ici, maintenant, à l'intérieur, est en train de se manifester? Que ce soit physiquement, que ce soit émotionnellement, affectivement, mentalement. Qu'est-ce qui est là? Et d'aller rencontrer ça de manière sensorielle. On vient ressentir, on ne vient pas appliquer, ah ben c'est ceci, c'est cela, là on est dans la pensée. On n'a même pas besoin, on n'a plus besoin de mettre des mots. On à juste sentir. Qu'est-ce que c'est que cette sensation-là quand il n'y a pas de distance? Qu'est-ce que c'est que cette sensation quand il n'y a plus que la montagne? Qu'est-ce que c'est que la non-distance? Cette distance illusoire entre moi et ce qui est en train d'être vécu maintenant. Lorsqu'il n'y a pas de distance, est-ce que la notion de temps est toujours présente? Qu'est-ce qui est dynamique et tranquille à la fois? Est-ce que je suis en train de produire un effort? Ou pas? Qu'est-ce qui, dans votre expérience, ici maintenant, qu'est-ce que c'est qui n'a pas besoin de direction? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'une sensation sans distance? Qu'est-ce qui se passe quand ce besoin de chercher, de trouver la présence se dissout, s'efface? Qu'est-ce qui se révèle? Lorsqu'il y a seulement la conscience auditive, y a-t-il un début et une fin? Qu'est-ce qui se passe quand je relâche le grip? Ce besoin de comprendre, de savoir, d'expliquer les choses. Qu'est-ce qui se passe quand je me fais le cadeau de la détente? Est-il possible à chaque instant de laisser, d'inviter la vie à œuvrer pour nous?